Radio Galère 88.4 et comme chaque semaine, on se retrouve pour aller passer une heure en Palestine. Bonjour, bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Galère et merci à la radio, merci à Sidi, merci à Radio Galère qui permettent de faire entendre tant de voix étouffées par les grands médias dits démocratiques, lesquels offrent tribune ouverte aux porteurs de haine, de discrimination et tentent de dissimuler les graves et grandes défaillances de la puissance publique. Comprenne qui veut comprendre, mais celles et ceux qui sont restés silencieux lors des violences, 102 à Lyon, dont 70% impunis, meurtres racistes, partout en France, attribués aux extrêmes droites, portent la responsabilité de la violence dans les rues de Lyon, et cela depuis plus de 10 ans. Personne ne doit mourir pour ses positions politiques, religieuses, pour sa couleur. Mais aujourd'hui, plus qu'hier, profondément, plus que jamais, siamo tutti e tutte antifascisti. Alors, avant que commence cette émission, en fin d'après-midi, nous avons appris le décès de Leïla Chahid. Leïla, qui a été de 1993 à 1980, à partir de 1993 jusqu'en 2006, représentante de l'OLP en France, puis de 2006 à 2015, représentante de la Palestine auprès de l'Union européenne. Leïla a choisi la date de son départ pour rejoindre Edouard Saïd, Hassan Kanafani, Najih El Ali, Mahmoud Darwish. Forte et courageuse jusqu'à la dernière minute, elle est partie en ce premier jour de Ramadan, qu'aux côtés de toutes ces personnalités palestiniennes, écrivains, poètes, dessinateurs, qu'elle trouve enfin le repos. Et après ce petit hommage, on va passer tout de suite à un rappel de l'actualité des jours qui viennent. Et on commence par vendredi 20, la présentation de l'ouvrage de Abraham Serfati, le Mandela marocain, écrit de prison sur la Palestine. C'est un ouvrage qui date d'une quarantaine d'années et qui a été réédité chez les éditions Sileps grâce à son petit-fils. Rédigé depuis le sinistre bagne de Kénitra, le livre s'attache à montrer le sionisme tel que Abraham le percevait, une idéologie raciste, colonialiste et impérialiste. Abraham revient également sur le statut des juifs arabes, les Misraïm, chair à canon et main-d'œuvre bon marché, et sur le sort fait aux Palestiniens, sur le rôle des États arabes dans la région. Et rappelons qu'Abraham Serfati était aussi, avec son groupe Hilal Hammam, un farouche opposant à l'annexion du Sahara occidental, anticolonialiste jusqu'au bout. Abraham Serfati l'a payé par des dizaines d'années dans le bagne de Kénitra. Et un hommage donc lui sera rendu ce vendredi 20 à 19h à la librairie Transit. Et puis samedi 21 à partir de 16h, dans le local de Mille Babor, présentation des 3 dernières missions de l'association Rhizoma, que MACPAL soutient, intervention des différents acteurs et actrices, d'un membre de Médecins sans frontières international qui a été présent sur le terrain durant les 18 premiers mois du génocide. Il y aura aussi une vente de sacs, de t-shirts, de pochettes brodées par des Palestiniennes de Gaza, blessées ou malades, qui se trouvent actuellement en Égypte. Le dimanche 22, toujours à 14h, manifestation de soutien au peuple palestinien, toujours à partir de la Porte d'Aix, et à partir le procès d'Eurolinks dont tu vas nous parler. Vas-y.
Oui, très rapidement. C'est une actualité un peu plus lointaine, mais quand même, il est important d'y penser dès maintenant. Le 23 mars, à Marseille, va s'ouvrir le procès de l'entreprise Eurolinx. Donc, pour celles et ceux qui l'ignorent peut-être, Eurolinx, c'est une entreprise qui vend des maillons d'armement à l'armée israélienne, qui est située dans le technopôle de Château-Gombert. Et un procès lui est intenté pour deux contrats d'armement. Donc ce procès-là s'ouvrira le 23 mars. Donc il faudra rester attentif et attentive aux événements autour de ça. Et par ailleurs, dans la même semaine, le 28 mars, une manifestation est appelée par l'AFPS à l'occasion de la Journée de la Terre. Voilà, donc je pense que vous aurez plus d'informations sur ces mobilisations à venir.
Oui, pour rappeler aussi Eurolinx, il y a eu une très grande mobilisation sur Marseille pour dénoncer cette entreprise, dont le PDG a menti effrontément tant à ses salariés qu'aux manifestants et aux organisations, en affirmant que rien n'était livré à l'État génocidaire. Or, on a pu se procurer, en tout cas, a pu sortir l'information sur les livraisons qui étaient faites. Et M. Bonelli, je crois son nom, a continué à mentir et là, il devra rendre compte devant la justice. Voilà, peut-être qu'on peut commencer tout de suite par cette chanson qu'on aime beaucoup, Dominique Grange, « Détruisons le mur ». C'est parti.
Dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine. Qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue. Elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus. La mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation. Halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira. Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoignent de ce qu'ils t'ont volé. Petit ton pays, ton histoire. Petit ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza assassinés par leurs missiles? Où sont Ahed et Zakaria et Muhammad et Ismaïl? Petit, l'occupant est sans cœur, il prend nos terres, il prend nos vies. Il veut imposer la terreur, mais nous n'avons pas peur de lui. Mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation. Halte à l'apartheid, à Palestine vivra, Palestine vaincra.
Voilà, c'était Dominique Grange, Détruisons le mur. Et on est de retour dans le studio et on continue cette heure en Palestine. Alors dans le studio avec moi, eh bien, il y a Pop qui a effectué un séjour en Cisjordanie occupée et qui va témoigner sur le vécu et le ressenti. Mais aussi il y a Sabine qui s'est rendue en Égypte, on était toutes les deux d'ailleurs, début février, qui va aussi expliquer son vécu et son ressenti. Et elle va nous parler aussi de l'association Rhizoma, une association qui a pour objectif d'aider au développement de la santé globale. Voilà. J'en dis pas plus. Alors, on commence par toi, Pop, la Cisjordanie, et puis on fera des allers-retours entre vous deux. La Cisjordanie, c'était le premier voyage, c'était...
Oui, pour moi, c'était le premier voyage. Je fais partie d'une petite équipe de personnes de Marseille qui ont décidé d'aller en Cisjordanie à l'automne dernier. Pardon. Dans le cadre de la récolte des olives et donc dans le cadre d'appels à volontaires internationaux qui ont été lancés par beaucoup d'associations palestiniennes pour faire venir des personnes et aider à la récolte des olives sur la période qui court donc de octobre à fin novembre, en gros. Donc on est parti, il y a plusieurs petites équipes qui sont parties et qui donc sont allées là-bas et qui sont allées rencontrer les personnes, les cultivateurs et les cultivatrices d'olives qui ont aidé, enfin on a aidé à la récolte des olives là-bas. La première chose, je pense, qui peut être intéressante à raconter, c'est que l'expérience du passage de frontière et le fait de pouvoir rentrer en Cisjordanie, c'est une petite épreuve qui n'est pas la même pour tout le monde. Il y a des camarades qui n'ont pas pu rentrer parce que qui ont été identifiés comme arabes par les personnes qu'ils ont contrôlées aux frontières, et donc il y a des personnes qui n'ont pas pu venir participer à la récolte des olives.
Vous êtes rentré par Tel Aviv ou par la Jordanie?
On est rentré par la Jordanie. Et parce que c'était ce qui nous semblait le plus simple, y compris au niveau des contrôles qui peuvent être effectués quand on rentre par Tel Aviv, qui sont quand même beaucoup plus sévères que soi-disant que ceux qui sont faits par la Jordanie. Mais voilà, donc c'était quand même déjà quelque chose, et déjà il y a un ordre raciste qui se met en place, y compris pour les personnes, les internationaux qui passent cette frontière. Et une fois qu'on a réussi à rentrer en Cisjordanie, du coup on a on a fait principalement deux choses. Donc participer à la récolte des olives avec les oléiculteurs et les oléicultrices. Et on a aussi fait une deuxième partie de notre voyage qui était plus de la protective presence.
Alors, tu nous expliqueras tout à l'heure, mais on va tout de suite demander à Sabine. Alors, toi aussi, c'était ton premier voyage pour rencontrer les Palestiniens.
Oui, tout à fait. C'était très, très émouvant de rencontrer ces personnes. Et je suis très contente d'avoir fait le déplacement. J'ai découvert aussi une ville, une mégalopole de 22 millions d'habitants, chiffre officiel. C'est énorme. Et j'ai pu effectivement rencontrer les étudiants que nous soutenons, rencontrer les familles, enfin en tout cas pas toutes, mais certaines que j'ai pu rencontrer, et puis aussi faire la connaissance des personnes qui sont nos correspondants locaux.
Tu peux nous dire un mot sur Rhizoma, alors? Rhizoma, elle fait quoi?
Rhizoma, en fait, a une vocation généraliste qui est par rapport à la santé globale, selon la définition de l'OMS. Donc, tout projet en lien avec la santé peut trouver un écho chez nous. On peut soutenir tout type de projet. Bon, là, les circonstances font que c'est un projet Palestine, puisque nous soutenons des personnes, à la fois pour les étudiants en médecine, pour leur permettre de finaliser leurs études, et des familles qui ont été évacuées sanitaires et qui vivent au Caire, ne pouvant pas pour l'instant repartir à Gaza. Donc elles y sont pour se soigner. Et donc nous, via des collectes, que ce soit par Hello Asso, GoFundMe, on essaye de récolter des fonds et pour qu'ils puissent correspondre aussi à leurs besoins, à leurs attentes. Donc ça ne se fait pas de manière... ascendante, hein. C'est vraiment un projet ensemble, et on a des interlocuteurs locaux qui nous permettent aussi de pouvoir décoder et d'apprécier quelles sont les difficultés, les projets à soutenir. Voilà.
Ok, alors Cisjordanie, vous êtes arrivé pont Allenby, vous êtes rentré vers Jérusalem et ensuite vous vous êtes réparti pour aller dans différents lieux.
Voilà, c'est ça. On a suivi des initiatives, c'est-à-dire de personnes qui nous ont guidés vers tel ou tel paysan, paysanne qui avait besoin d'aide, que ce soit d'aide très concrète en fait pour faire la récolte et pour récolter les olives, même si la récolte de cette année n'était vraiment pas très bonne. Elle sera sans doute meilleure l'année prochaine. Et voilà. Et donc, en gros, on est passé comme ça entre divers champs, entre divers endroits, que ce soit notamment, en tout cas, autour de Naplouse, dans tous les villages qu'il y a autour de Naplouse, qui sont, comme beaucoup d'endroits en Cisjordanie, mais en tout cas, les villages autour de Naplouse sont quand même très, très régulièrement la cible d'attaques à la fois des colons et à la fois de l'armée, et aussi de l'armée.
Naplouse, c'est un haut lieu de la résistance. C'est aussi beaucoup de villages tout autour, dans le village de Salem. Il y a beaucoup de villages et de zones agricoles. Et il y a aussi, malheureusement, beaucoup de colonies perchées au sommet des collines, avec parmi ces colonies, avec celles d'Hébron aussi, mais les plus racistes et les plus violentes de la Cisjordanie. Naplouse et Hébron sont des hauts lieux des fanatiques sionistes. Qui n'hésite pas à tirer, à tuer. Voilà. Donc, toi, tu es te retrouvé dans quel lieu tu gardes souvenir des villages
Je garde souvenir du village de Assira. Je garde aussi souvenir par rapport à ce que tu racontes des personnes qu'on nous a nommées, c'est-à-dire que il y a des espèces de chefs de colonie. On nous a notamment beaucoup parlé d'une personne qui s'appelle Jacob, qui est un chef de colonie ultra violent, qui a pour habitude de venir terroriser les personnes palestiniennes, qui les attaque, qui blesse des personnes, qui en agresse et qui se vante ensuite de l'avoir fait pour maintenir une espèce de terreur permanente. Et qui, en fait, en se construisant, il se construit comme ça une espèce de figure quasiment mythologique d'ogre qui vient terroriser les gens, notamment de ce village et des 6 villages autour qui sont autour d'une montagne, quoi. Voilà.
Et donc, vous avez partagé pendant un certain temps la vie des Palestiniens. Vous avez comment tu vas traduire ça en termes de relations, d'émotions ressenties à la fois en côtoyant les Palestiniens, mais aussi en étant confronté à la violence des colons.
Disons que je pense que la violence que les Palestiniens et les Palestiniennes subissent actuellement, c'est quelque chose qui sera jamais complètement compréhensible de notre point de vue, parce qu'en fait on ne peut pas nous comprendre la force dont ils et elles font preuve contre la quotidienneté de ces attaques, contre la perversité aussi de ces attaques, c'est-à-dire que leur existence quotidienne, elle est attaquée de tous les points de vue, elle est attaquée à la fois sur une question de leur culture, de leur identité, leur vie est en danger de façon très quotidienne, leurs mouvements sont empêchés, c'est-à-dire que toutes les routes sont soit barrées, soit il y a des checkpoints volants qui se mettent en place sans arrêt, et là, ces derniers temps, de plus en plus, donc en gros, tout leur quotidien est complètement mis à mal par la colonisation et leur existence même est mise en péril. Donc en fait, de notre point de vue, nous on a eu un échantillon de ce que ça pouvait être cette vie sous occupation sioniste sur un temps donné. Mais évidemment, l'empathie qu'on a pour ces personnes est sans limite et sans borne, mais on ne pourra jamais avoir une expérience équivalente, forcément.
Et de ce que vous avez vécu au quotidien avec les Palestiniens, c'est-à-dire que vous avez partagé des choses, des émotions, du vécu aussi
Les personnes qu'on a rencontrées, en tout cas, étaient pour la plupart des personnes... des personnes incroyables, avec beaucoup de joie, beaucoup d'humour, une façon de nourrir ce fameux soumoud palestinien qui est extrêmement perceptible. Je me souviens notamment d'une anecdote de quelqu'un à Massa Ferriata à qui on a demandé alors que la situation était quand même assez tendue, comment est-ce que vous faites pour toujours garder le sourire et faire des blagues? Et il nous a répondu, ah non mais attendez, quand la colonisation sera finie, nous on ira partout dans le monde pour ouvrir des écoles de sourire, pour vous apprendre à sourire, parce que franchement, vous ne savez pas rigoler quoi.
Ouais, effectivement, la capacité de résistance, de résilience du peuple palestinien est quelque chose qui ne peut que nous soutenir nous-mêmes. C'est pas nous qui les soutenons, mais très souvent ce sont eux qui nous soutiennent et qui nous donne la force de continuer quand de temps en temps on aurait envie de baisser les bras et d'arrêter. Alors toi c'était en Égypte et toi aussi tu as rencontré les Palestiniens et Palestiniennes.
Oui, c'était... En fait ce qui est impressionnant chez ces gens, c'est que, comment dire, le collectif c'est la priorité. C'est pas l'individu, même s'ils sont dans des projets individuels, notamment les étudiants, de poursuivre leurs études de médecine, certains en médecine, d'autres dentaire. Il n'empêche qu'ils sont très, comment dire, très solidaires et très dans l'entraide avec les autres, parce que leur objectif, c'est d'être au service de leur peuple, au service de la Palestine. Donc tous les moyens possibles sont mis dans cet objectif. Donc ils ont une détermination, enfin c'est un lieu commun de le dire, mais ils sont extrêmement courageux, déterminés, responsables, matures. Enfin, ils font preuve d'une maturité incroyable. Ils sont très conscients de ce qui se passe autour d'eux et des enjeux, y compris de leur position en Égypte. Donc ils font extrêmement attention aussi à bien s'insérer localement et à pas faire d'ennuis. Mais ils disent aussi qu'ils ont l'habitude qu'en tant que Palestiniens, la route n'a jamais été facile. Ils n'ont jamais connu la facilité. Que ce soit eux, bon, ils sont encore jeunes, mais que ce soit leurs parents ou leurs grands-parents, l'histoire palestinienne, c'est une histoire de lutte. Donc c'est quelque chose qui est intégré, qui fait partie d'eux. Et c'est vrai que ce soit les étudiants ou les familles ensuite, ce ne sont pas des gens qui sont dans la plainte. Ils vont expliquer leur situation, effectivement avec de l'émotion, de l'inquiétude, mais ils ne sont pas dans la plainte. Et ça, cette dignité-là, elle est impressionnante, moi, je trouve.
Alors, dans ce voyage, on a pu se rendre dans deux villes aux alentours du Caire, où se trouvent ces étudiants. Alors, pour expliciter un petit peu le lien qu'il y a eu, c'est des étudiants qu'on a rencontrés il y a en fin septembre, qui nous ont été présentés par un Palestinien sur place. Donc, il y a des étudiants qui sont dans la ville de Mansoura et d'autres qui sont dans la ville de Zagazig, qui sont à 2 heures du Caire, 2-3 heures du Caire. Donc, ces étudiants avaient commencé leurs études en Égypte avant le 7 octobre, avant le génocide, et leurs parents pouvaient les aider, les soutenir financièrement, puisqu'ils ne sont pas boursiers pour tous. Et depuis le 7 octobre, bien évidemment, la destruction de Gaza a fait que les parents ne peuvent plus financer les études. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'ils peuvent étudier, mais ils n'ont de papier que s'ils payent les frais de scolarité, ils n'ont de titre de séjour que s'ils payent les frais de scolarité, et ils ne peuvent avoir leur diplôme que s'ils ont payé l'intégralité des frais de scolarité qui s'élèvent à peu près à 3 000 $ par an. Outre ceci, il faut qu'ils mangent, qu'ils soient logés. Et donc ils ont expliqué qu'ils faisaient des petits boulots comme ils pouvaient pour se nourrir. Et puis pour les frais de scolarité, eh bien, ils ont c'est la troisième année qu'ils n'ont pas payé les frais de scolarité. Donc il y a eu une collecte qui a été lancée par par le docteur Baptiste André sur GoFundMe et soutenue évidemment dans le cadre de Rizoma. Et cette collecte a rapporté de quoi payer les frais d'inscription pour l'année, c'est-à-dire plus de 50 000 € pour payer les frais d'inscription pour tous ces étudiants et avoir une petite cagnotte qui permettra de commencer à payer le retard dans les frais d'inscription. Puisque certains, par exemple, le tronc commun de médecine se fait sur 5 ans. Au bout de 5 ans, ils ont 2 ans d'internat et au bout des 2 ans, ils peuvent faire une spécialité. Mais pour ça, il faut qu'ils aient tout payé. Et certains ont 3 000, 5 000, jusqu'à 7 000 $ d'impayés de scolarité. Donc vous pouvez imaginer que c'est un long chemin pour arriver à faire en sorte qu'ils arrivent au bout des 5 ans en ayant tout payé et pouvoir faire leur internat en Égypte. Donc le voyage vers ces deux villes, Agazig et Rizoma, tu peux nous dire un petit mot sur ce que tu as vécu, toi?
Alors, ce qui était la première rencontre à Agazig, en fait, elle s'est faite autour d'un repas. On les a invités au restaurant et on s'est dit que c'était l'occasion, l'opportunité pour eux d'abord de se retrouver tous ensemble et puis de partager un repas, un vrai repas. Parce qu'on imagine bien que, vu le dénuement matériel, ils ne doivent pas avoir l'occasion de pouvoir faire un bon et vrai repas. Donc, cette rencontre, voilà, c'était important que ça se passe comme ça. Et puis, c'est vrai que certains nous ont effectivement confirmé. Pour certains, ils n'ont pas accès à leurs notes parce qu'ils ont trop de dettes. Donc, c'est compliqué de passer des examens. Alors, ils savent s'ils sont reçus ou pas, mais ils n'ont pas le détail des notes qui peuvent leur permettre de vérifier là où ils ont besoin de travailler plus, etc. Ils font avec. Voilà. Ils sont obligés de s'adapter aux conditions. Et ça n'entame pas leur détermination, de toute façon. Ils iront jusqu'au bout. Déjà, par loyauté envers leur famille, parce que leur famille a fait de gros efforts pour pouvoir les envoyer faire des études en Égypte. Et puis aussi, effectivement, dans la perspective d'un retour à Gaza. Et pour pouvoir travailler, il faut qu'ils soient diplômés. Pour pouvoir remplir leur mission, je dirais, il faut qu'ils aient leur diplôme. Donc tout ça, c'est lié à l'argent. Voilà. Et c'est parfois gênant pour eux se sentent un petit peu... ils n'ont pas envie d'être assistés, en fait. Hein. C'est compliqué pour eux. Mais nous, ce qu'on leur a dit, c'est que Rizoma ne fait pas que dans l'humanitaire. On est vraiment en pleine solidarité avec leur combat. Avec leur combat anticolonial, on est effectivement dans cette perspective de solidarité. Et pas seulement d'apporter des dons par humanité. Ça en fait partie, bien sûr, mais c'est pas ce qui nous anime en ce qui les concerne. Voilà.
Surtout qu'avec le nombre de médecins qui ont été tués, qui ont été arrêtés, qui sont tous détenus comme otages, torturés et affamés dans les prisons israéliennes, c'est essentiel de redonner ce coup de boost pour ces étudiants afin qu'ils et l'engagement qu'ils ont pris par rapport à Rizoma, mais aussi par rapport à leur famille, c'est de, après avoir terminé leurs études, c'est de retourner à Gaza. Et ce qu'il y avait de chaleureux aussi, c'était de savoir que les familles qui sont sur place avaient pu prendre contact avec la famille de notre interlocuteur qui nous met en lien avec tous ces étudiants, pour leur dire à quel point le fait que les étudiants aient leurs frais de scolarité payés, les aider, eux, à Gaza, à continuer à résister, à survivre, parce qu'ils savaient qu'il y aurait quelqu'un qui avait une solidarité qui permettait à ces étudiants de continuer leurs études. Et c'est aussi quelque chose de très stimulant. Ouais, ouais. Et puis, tu n'as pas parlé de Mansoura du gâteau.
Mansoura. Alors, ce qui est aussi frappant, c'est le sens de l'hospitalité. Le rien, même le rien, ils le partagent. Et là, ils étaient venus au bord du Nil. On était dans un jardin au bord du Nil. Et l'un d'entre eux avait fait un gâteau au chocolat. Et donc, ils nous ont préparé un goûter. Ils nous ont fait
des cadeaux.
Et notamment à chacune un très beau châle brodé. Et les pochettes qui contenaient les châles, ils ont écrit pour chacune d'entre nous un message personnalisé de remerciement en français. Donc c'était assez touchant.
Oui, voilà, très touchant. Alors on repasse en Cisjordanie et on t'écoute sur la suite de ces heures passées avec les paysans palestiniens autour de Naplouse. Et puis, vous êtes passé entre les mailles du filet, si on peut dire. Vous avez pu mener votre mission à bien d'aider les paysans. Est-ce que vous avez été confronté aux colons ?
Nous, on n'a pas été confronté aux colons dans les champs d'oliviers. Et on n'a pas eu, on a, par une espèce de chance notable, on n'a pas eu d'attaque de colons dans les champs d'oliviers, alors même qu'on recevait des informations qui disaient que dans les groupes de personnes, des internationaux qui étaient autour de nous, il y a eu des attaques, il y a eu des personnes qui ont été confrontées directement aux colons qui descendent dans les champs et qui soit agressent les Palestiniens et les Palestiniennes, soit les font dégager d'une façon ou d'une autre. Mais quand même, je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce que effectivement, nous aussi, on a quand même noté un grand soin de la part des personnes qui nous ont accueillis, à extrêmement bien nous accueillir, et sans faire de généralité sur toute une population. Je pense quand même qu'en discutant un peu avec les personnes, ce qui était important pour elles et pour eux, c'était de pouvoir nous donner à comprendre, comme si on avait besoin de le comprendre, mais qu'en fait, ce sont des êtres humains comme les autres, et qu'en fait, par leur accueil, eux, ils étaient là aussi pour contrer l'espèce de discours propagande, l'espèce de grande propagande qui fait des Palestiniens et des Palestiniennes des animaux moins que des êtres humains et compagnie. Et eux, ils avaient vraiment à cœur, par l'accueil qu'ils nous faisaient, de montrer qu'ils n'étaient pas que ça. Évidemment, on n'était pas là pour être convaincus. Mais quand même, pour eux, c'était très important. On a notamment eu des échanges un peu plus à l'arrache avec une personne dans un taxi qui nous expliquait qu'en fait, dans cette histoire, dans le fait de vivre sous occupation, le plus épuisant, c'était sans doute de devoir sans cesse rappeler qu'en fait, on est des êtres humains, qu'on a des histoires et des émotions, et que c'est ça qui sont leur principale idée, c'est de devoir sans cesse rappeler ça au reste du monde. Donc ça, c'était quand même quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que tu voulais que je raconte?
Un petit peu ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, et ce que d'autres ont vécu aussi, puisque vous avez partagé, vous n'étiez pas tous ensemble. Et...
Oui, alors voilà, nous, on a été très rapidement confrontés aux forces d'occupation en la personne de militaires qui nous ont fait dégager du champ où on était en train de récolter. Voilà, ça c'est des procédés qui ont eu lieu sans arrêt tout le temps, tous les jours, partout, pendant la récolte des olives. Donc nous, on n'a pas été confrontés à des colons. Il y a d'autres personnes internationaux qui étaient venues pour aider à la récolte, qui, elles, se sont fait arrêter. Et ça a mis fin à leur séjour en Cisjordanie. Ils ont donc passé quelques jours dans des prisons israéliennes et ensuite ils ont été renvoyés vers leur pays d'origine avec, pour certaines, l'interdiction de revenir en Cisjordanie pour des nombres d'années assez délirantes. Je sais plus s'il y en a eu qui ont 99 ans d'interdiction de territoire, mais c'était soit 10 ans, soit 99 ans. Enfin, je suis plus sûre. Bon, voilà. Donc voilà, donc nous on a fait ça, et comme la récolte n'était pas exceptionnelle cette année, on a aussi fait une deuxième chose, qui est une deuxième façon d'apporter son soutien en tant que personne internationale qui a envie d'aller en Cisjordanie. Il y a d'une part donc le fait de venir aider pendant la récolte des olives, et l'autre, et ça c'est une période qui est sur la période de la récolte, donc octobre, novembre ou décembre, ça dépend. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des organisations qui s'occupent de faire de la protective presence, c'est-à-dire de faire juste de la traduction littérale, présence protective parmi les familles.
Alors ça, tu vas nous préciser tout ça, mais tout de suite, on fait une pause musicale. Sidi, on te laisse choisir laquelle des deux musiques que tu nous passes.
يا مام ويلي to our home, our homeland, to our pride.
Your mom waited how long? Your mom waited. Your mom waited how long? Your mom waited. Oh, sing for me, mama. Mama, sing to the wind.
To the wind, mama, oh mama, sing my song. Is it better to die in freedom than a captive life in chains?
Your mom waited how long? Your mom waited, your mom.
Voilà, après cette super berceuse, Lullaby, Together for Palestine, vous pouvez retrouver ça sur YouTube. C'est une superbe et émouvante chanson. Donc on revient sur la Cisjordanie, on revient sur cette présence protectrice. Explique-nous un petit peu ce que c'est, ce que vous avez fait.
Oui, alors oui, comme je disais avant la chanson, c'est un appel à soutien qui a cours sur toute l'année, dont il y a toujours besoin de gens tous les mois, tous les jours. Et en fait, il s'agit simplement d'aller avec des habitants et des habitantes. Là, nous, en l'occurrence, on était accueillis dans une famille. Et en fait, le simple fait d'être là, c'est-à-dire mettre son privilège de personne blanche internationale, tout simplement parce que supposément, la présence de personnes internationales ferait que les colons auraient un comportement plus mesuré envers les personnes palestiniennes. Bon, chose qui est difficilement mesurable, en fait, parce que quand même, l'agressivité monte de plus en plus, les attaques sont de plus en plus violentes, complètement obscène à quel point les colons sont extrêmement à l'aise pour attaquer les Palestiniens et les Palestiniennes. Mais malgré tout, il y a aussi cette chose qui est que nous, on y a été dans l'idée de répondre au sentiment d'impuissance qui, je pense, nous traverse beaucoup de personnes, c'est-à-dire que faire par rapport à ce qui se passe en Palestine. Y aller était une première forme de réponse. Et aussi, du coup, écouter ce que les gens ont à dire là-bas, c'est-à-dire eux, ils sont en capacité de nous dire de quoi ils ont besoin. Et notamment, ce que Eliel disait, c'était que nous, on soit en capacité de ramener leurs témoignages, de ramener leurs histoires, de ramener aussi le récit de ce que nous, on a vu et de ce qu'on a vécu, justement pour pouvoir contrer cette propagande anti-palestinienne, quoi. Et donc aussi, très précisément, de documenter, de pouvoir filmer, de pouvoir prendre des photos, d'enregistrer les attaques des colons sur les villages. Et nous, notamment, on a été dans la région de Massafariata, que vous connaissez peut-être parce que c'est l'endroit où a été tourné le film No Other Land, qui a eu un certain retentissement, donc qui a porté cette région un peu sur le devant de la scène. Et donc voilà, nous c'est à cet endroit qu'on était là, on y est resté un petit temps. Là-bas, il y a diverses organisations qui font une espèce de relais en permanence et qui essaient de mettre des personnes aux endroits les plus tendus, enfin voilà, pour qu'il y ait toujours en gros une espèce de relais de présence, quoi, pour les soutenir.
Et sur Massafariata en particulier, il y a aussi une présence israélienne juive pour soutenir, pour faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire être présent et essayer de limiter l'impact des colons et de l'armée, parce que les colons sont hyper armés. Ben Gvir a distribué des dizaines de milliers d'armes. Alors, ils étaient déjà armés et pour la plupart extrêmement fous furieux. Il y a une dizaine d'années, il y a une vingtaine d'années, mais maintenant, en plus, ils sont hyper armés. Et si jamais ils... parce qu'ils sont, courageux, mais pas téméraires. Et quand ils interviennent, il y a aussi en second rideau l'armée qui est là pour arrêter les Palestiniens, y compris quand ils sont blessés, agressés. Et ce sont eux qui sont arrêtés et amenés en détention. On retourne au Caire et... peut-être tu peux continuer sur quelques familles que tu as pu rencontrer.
Ce qui a aussi été un peu une gêne pour moi, c'est la barrière de la langue, puisque je ne suis pas ni arabophone ni anglophone. Donc en fait, pour certaines familles, j'ai compris après coup ce qui se passait, parce qu'on en a parlé ensemble. Parce qu'en fait, Régine passait par le truchement d'un interprète arabophone qui... faisait la traduction en anglais et Régine écrivait en français. Et moi, j'essayais de comprendre ce qui se passait, c'était pas simple. En plus, ce qui était chouette, c'est que comme elles étaient en confiance, les personnes, elles s'exprimaient et elles parlaient beaucoup. Donc, en fait, la manière dont j'ai communiqué avec elles, c'est davantage par les regards et les sourires. Ça, la communication non verbale, ça fonctionne, quoi. Et c'était assez intéressant de voir leur posture, enfin leur manière de se positionner quand elles racontaient quelque chose. Encore une fois, jamais dans la plainte. Hein, on est digne, on est voilà, elles étaient tranquilles dans leur positionnement, même si elles manifestent, elles le disent, leur inquiétude par rapport à leur devenir, que ce soit en Égypte ou dans l'hypothèse d'un retour à Gaza, parce que certaines d'entre elles ont encore des enfants là-bas, ou encore un mari. Certaines, au contraire, ont tout perdu, donc elles se retrouvent seules avec leurs enfants en Égypte. J'ai effectivement le souvenir d'une maman qui a sauvé en fait sa petite fille qui a été gravement blessée au crâne, qui a été sauvée. C'est miraculeux, cette petite fille. Et c'est pas forcément évident d'envisager de repartir avec elle à Gaza. Voilà, sachant que le mari est mort, enfin, la famille est bien décimée sur place. Donc selon la présence ou non de famille restée à Gaza, ça conditionne aussi leur envie et leur besoin d'y retourner. C'est très complexe tout ça, hein. Il n'y a pas de certitude absolue, il y a des envies, il y a des désirs, mais est-ce qu'ils sont réalistes, réalisables? Voilà, c'est plein de points d'interrogation. Mais en attendant, dès qu'il y a la possibilité pour elles de s'exprimer, elles s'en servent. Elles parlent, elles expliquent pour qu'on comprenne bien ce qui se passe.
et qu'on puisse effectivement rapporter leurs problématiques et augmenter le soutien potentiel, y compris pour après, parce qu'il faut l'envisager plutôt sur du long terme. Ce oui. qui n'est pas simple non plus.
Tout à fait.
Pour nous, du coup.
Pour revenir sur ces familles, il y a deux familles qu'on suit particulièrement. Il y a la maman d'un bébé, Ryan, qui a pu être opérée grâce au contact qu'on a pu établir avec, avec un chirurgien, un cardiologue égyptien, qui a mis en contact avec des collègues et le bébé Ryan, qui avait 5 mois quand on l'a rencontré en avril 2025. A pu être opéré, il a eu plusieurs opérations, plusieurs interventions, et il doit encore en subir une troisième, je crois, lorsque qu'il aura un peu grandi, de manière à augmenter le nombre de chances de réussite. Il a des problèmes de valve, il a différents problèmes qu'on ne maîtrise pas très bien, nous. Et la maman a décidé de rentrer. Alors déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que dès que les Palestiniens qui se trouvent en Égypte, qui sont différents, il y a des gens qui étaient là parce qu'ils faisaient du commerce ou autre, mais essentiellement, il y a des gens qui étaient en Égypte pour être soignés. Et ce sont essentiellement des femmes qui avaient des cancers, et surtout du cancer du sein, parce que dans la bande de Gaza, la technologie nécessaire pour détecter et soigner et traiter les cancers n'a pas été autorisée par les autorités israéliennes, ce qui fait que les femmes doivent sortir. Alors soit elles se rendaient dans des hôpitaux israéliens avec les soins payés par l'autorité palestinienne, soit elle pouvait aller en Cisjordanie, dans les différents hôpitaux, soit à Jérusalem, à Makasset, le grand hôpital, soit à Naplouse, où il y a encore des gens qui sont bloqués depuis le 7 octobre, soit en Égypte pour celles qui se trouvaient essentiellement dans la région du sud de la bande de Gaza, Rafah, Younis. Et après le 7 octobre, il y a une partie qui a été bloquée en Égypte et qui ne peuvent pas rentrer. Et puis, il y a ceux et celles qui ont été évacués pendant les trêves ou lorsqu'il y a eu des évacuations, y compris pendant les bombardements, et qui sont en Égypte bloqués. Ces personnes, lorsqu'elles ont su qu'il y avait une possibilité de rentrer, il y a 80 000 personnes qui se sont inscrites pour rentrer, en sachant qu'il était prévu dans les accords que 50 puissent rentrer chaque jour. Mais dès le début, les autorités israéliennes ont permis uniquement à 20 personnes de rentrer, et dans des conditions absolument effrayantes, ne serait-ce que pour décourager celles qui étaient tentées de rentrer. Ce qu'on a pu voir sur la télévision égyptienne, c'était des témoignages de personnes qui disaient qu'elles avaient été, elles avaient eu les yeux bandés, elles avaient été fouillées au corps, on leur avait pris, y compris les jouets des enfants qu'ils ramenaient avec eux, des conditions faites pour décourager. Et la maman de Ryan, eh bien, elle a décidé de rentrer. Elle a décidé de rentrer pourquoi ? Parce qu'elle a son mari et 4 enfants qui sont dans la bande de Gaza qui ont pu survivre. Et la spécificité aussi, c'est que lorsque son mari s'est rendu pour essayer d'avoir de la nourriture, lorsque Trump et compagnie avaient organisé cette espèce de piège qui était aller chercher de l'argent, de la nourriture dans des points bien précis, on lui a tiré dessus et il est maintenant paralysé. Donc son mari paralysé, 4 enfants, le bébé Ryan. Nous allons essayer de la mettre en contact avec des associations qui pourront l'aider lorsqu'elle sera rentrée. Mais quand on voit aujourd'hui que le gouvernement israélien a décidé d'exfiltrer, de virer 37 organisations humanitaires qui agissent dans la bande de Gaza, on ne sait plus vers qui se tourner. On avait pensé à MSF parce que Ryan va avoir besoin de soins. Or, MSF doit quitter très rapidement la bande de Gaza et ça va créer aussi des difficultés épouvantables pour la santé des populations, pour la survie des populations. Donc ça, c'est une première chose. D'autres familles, comme la maman des triplés qui sont nés en Égypte, où elle avait été évacuée enceinte après avoir été blessée, eh bien elle n'a plus de famille. La famille a pratiquement été éliminée et elle a décidé de rester en Égypte. Mais rester en Égypte, ça veut dire payer un loyer, ça veut dire payer une scolarité pour les enfants. Et elle est à la recherche d'un parrainage pour pouvoir aider à payer ce loyer et à donner une éducation aux enfants. Donc, payer le loyer, nourrir les enfants, les tripler. Bon, pour le moment, ils ont, quand on les a rencontrés, ils avaient 23 mois. Donc là, ils vont vers les 2 ans. Trois enfants, ça mange. Alors, comment elle survit? Ben, c'est un petit peu... nous, on essaye d'aider pour payer le loyer. Il y a des dons qui sont faits par des associations humanitaires. Elle prend ce qu'elle doit consommer et puis elle essaye de revendre pour avoir un petit peu d'argent. Mais c'est une situation extrêmement délicate. Quand nous l'avons rencontrée, elle était avec sa belle-mère, puisque son mari a été tué dans un bombardement, le papa des enfants. Et la belle-mère va rentrer à Gaza, elle s'est inscrite pour rentrer à Gaza, parce qu'elle aussi, elle a son mari et ses enfants qui sont encore là-bas, et ses petits-enfants, et elle veut les rejoindre. Et on a eu énormément de témoignages de ces mamans. Je pense en particulier à Kamla, qui a été opérée de cancer de la thyroïde, qui a eu ensuite des opérations multiples liées à son cancer de la thyroïde. Et... qui dit, elle attend une évacuation pour avoir un véritable traitement de prise en charge pour cette ablation de la thyroïde par des médicaments qui ne sont pas disponibles en Égypte. Mais elle dit qu'elle a son petit garçon de 10 ans qu'elle n'a pas vu depuis 3 ans. Elle était sortie au moment, juste avant le 7 octobre, et elle est en Égypte sans ressources. Pareil, ça fait partie des gens qu'on essaye d'aider, mais pour lesquels nous n'avons pas les moyens de fournir une assistance mensuelle. Donc ce sont des choses très, très, très ponctuelles. Voilà, ça c'était un petit peu ce que je voulais ajouter pour les familles, ces quelques exemples de familles. Après, je pense que depuis plus d'un an, je crois que Rizoma a dû aider plus de 300 personnes, mais très ponctuellement et avec des dons très limités. Ce ne sont pas des choses qui permettent, ça permet d'acheter une paire de lunettes, ça peut permettre d'acheter des médicaments et on paye des scolarités. Alors ça fait partie aussi, outre les étudiants, mais il y a 11 élèves qui sont scolarisés dans des écoles privées parce qu'il faut savoir que les écoles publiques ne sont pas permises pour les enfants qui n'ont pas de papier, de statut de résident. Donc il faut payer des écoles privées et on a trouvé 11 enfants qui avaient besoin d'être scolarisés. Voilà, alors on revient en Cisjordanie encore un petit peu. Et pour les personnes qui sont parties, alors est-ce que vous avez envie de retourner? Qu'est-ce que ça a donné au niveau de tous ces gens avec qui tu peux être en contact qui...
Voilà. Alors oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties en Cisjordanie qui ont pour projet d'y retourner. Et ce que ça a donné par rapport aux personnes avec qui on a pu nouer contact, c'est que ces personnes sont venues. Elles sont notamment venues très très récemment, là, à Marseille. On a accueilli 4 personnes. On a eu la chance de les accueillir. On a accueilli Akima et Abdallah, qui sont 2 personnes qu'on a rencontrées plutôt autour de Naplouse. Et on a accueilli Fayez et Mona, qui sont des agricultrices à tout le carême. Et ça, ce que tu disais à propos des femmes qui devaient soigner leur cancer, ça me faisait penser à une chose qu'ils nous ont racontée autour de tout le carême. Eux, leur ferme, elle est collée au mur de séparation. Elle a même le terrain a même été divisé par le mur, donc ils ont perdu du terrain sur leur ferme. C'est une ferme qui travaille en agroécologie. Ils ont extrêmement à cœur de se libérer des intrants chimiques israéliens, etc. Sauf que tout autour de leur ferme, en fait, il y a des usines chimiques qui ont été postées. Et en fait, les rejets toxiques des usines se voient. Il y a toute une partie de leur ferme où, en fait, il y a de l'eau qui s'écoule, qui est grise, bleue, et qui, en fait, empoisonne complètement les sols et on détruit toute une parcelle de fruitiers qui est à laver. Et à tout le carême, on avait notamment discuté avec un médecin qui nous avait expliqué qu'en fait, le nombre de cancers chez les femmes avait explosé suite notamment au développement d'entreprises toxiques israéliennes. Et il y a aussi ces autres anecdotes qui expliquent que le vent va dans un sens, les fumées qui sont rejetées des usines vont vers la Cisjordanie, et les jours où le vent tourne et où le vent emmène les fumées toxiques de l'autre côté du mur, ils arrêtent les usines.
Ouais. Cette usine, une de ces usines en particulier, était une usine qui était implantée à l'intérieur du territoire israélien, de la Palestine 48, et qui a été fermée pour toxicité et qui a été déplacée vers la Cisjordanie en l'implantant en fonction du vent, justement, pour que les fumées et la toxicité se déversent sur les Palestiniens. Et c'est là aussi où on voit la notion de génocide lent, c'est-à-dire cancer, pesticides, cancer, refus de laisser passer, pour la bande de Gaza en tout cas, les technologies qui permettraient de traiter le cancer sur place. Donc, obligation de sortir, de quitter le territoire. Et évidemment, ça entraîne, quand les soins sont tardifs, eh bien, ça entraîne des complications supplémentaires. Et le nombre de cancers du sein qui sont traités en Égypte pour les femmes de Gaza est absolument affolant. Alors, ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est avec, je passe un peu du coq à l'âne, mais avec la possibilité de rentrer à Gaza et puis la nécessité de sortir des blessés pour les amener vers l'Égypte et peut-être pour vers d'autres pays, c'est que les autorités égyptiennes ont indiqué aux personnes dont les traitements étaient terminés qu'elles devaient quitter les lieux où elles étaient hébergées, en particulier certains lieux, comme un lieu qui s'appelle El Obour Massaken, dans la grande banlieue du Caire. Donc les gens ont le choix de rentrer à Gaza. Mais pour rentrer à Gaza, encore faut-il qu'on les autorise à rentrer, puisque le nombre est très limité, ou alors sortir et payer un loyer. Et tout ça aussi pour héberger ceux qui vont arriver. Alors, loin de moi la volonté d'attaquer l'Égypte pour ce qui est mis en place pour les Palestiniens, parce que la France, avec toute sa technologie, son pouvoir, son argent et sa 7e place mondiale en termes de classement des États, n'a pas fait le millième de ce que l'Égypte a fait pour les blessés et les malades palestiniens. La France est vraiment une honte en termes de solidarité internationale, y compris envers les enfants qui ont été blessés dans les bombardements. Il y a aujourd'hui des dizaines, plus près de 20 000 enfants qui attendent d'être évacués pour être soignés. Et la France a bloqué toute évacuation et tout ce qui concerne la bande de Gaza. Bon, je ne parlerai pas de notre honteux ministre des Affaires étrangères. Et on revient donc sur l'Égypte et ton dernier sentiment. On reste très peu de temps. Ton dernier sentiment sur ce que tu as vécu en Égypte, comment est-ce que tu en reviens finalement?
Comment dire ça? Je pense que mon histoire avec l'Égypte n'est pas finie. Je pense que j'y retournerai. Et notamment, j'ai pu rentrer un peu plus en relation avec une de nos correspondantes qui parle parfaitement français puisqu'elle a fait ses études supérieures en Algérie. Donc évidemment, la communication avec elle était beaucoup plus facile. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui, malgré qu'elle parle le français, qu'elle ait essayé d'aller travailler à l'Alliance française, s'est vue rejetée parce qu'elle porte le voile. Pourtant, on est en Égypte. Et ça, c'est injuste. Enfin, alors qu'elle a des capacités, elle a fait des études supérieures en chimie, elle a fait un master en environnement de l'eau. Enfin, c'est quelqu'un qui a des compétences, qui parle parfaitement et qui écrit parfaitement le français. Et elle s'est retrouvée rejetée parce qu'elle porte le voile à l'Alliance française. Donc bon, c'est problématique quand même. C'est une injustice après l'autre. Alors, je ne dis pas qu'elle est fataliste, mais elle dit que de toute façon, nous les Palestiniens, on est habitués à ce que ça ne soit pas facile. On lutte depuis très longtemps et on continuera de lutter. Ce qui m'a aussi touchée, c'est un monsieur d'un certain âge qui était à côté de moi et qui disait qu'il préférait aller mourir à Gaza que de rester en exil. Donc c'est même pas aller vivre à Gaza, c'est aller mourir à Gaza. Au sein de son pays et au sein de sa famille. Donc c'est tragique quand même d'entendre ça.
Et toi, comment tu es revenue de cette expérience en Palestine?
Moi, je suis revenue extrêmement touchée de cette expérience en Palestine. Je pense que c'est important de dire qu'il faut y aller, que c'est aussi la demande qui est faite par les Palestiniens et les Palestiniennes. Même si tout est mis en place pour effrayer, empêcher les personnes internationales d'aller en Cisjordanie, il faut quand même y aller. C'est très important. D'ailleurs, à ce sujet, je pense que c'est important aussi de préciser qu'il y a des flottilles qui vont repartir fin mars pour essayer de réussir à casser le blocus de Gaza. Et ça m'a surtout donné envie de continuer à lutter de toutes les façons qui sont possibles pour obtenir la libération du peuple palestinien. Et je pense que ça commence... il y a beaucoup de façons de s'y prendre. Je pense que c'est important de s'organiser pour pouvoir donner une aide financière, comme c'est fait. Je pense qu'aussi, c'est très important de s'organiser pour pouvoir y aller. Et aussi, c'est avant toute chose, très important de s'organiser là où on habite pour lutter pour la libération du peuple palestinien, par exemple en empêchant la fabrication d'armes qui servent au génocide à Gaza. Et notamment, le génocide, il se fabrique chez nous et à Marseille, il se fabrique avec Eurolinks.
Alors, on va faire conjuguer toutes les activités, c'est-à-dire converger toutes les activités, c'est-à-dire on vous rappelle simplement que samedi 21, on espère vous retrouver à 1000 Babord à partir de 16h pour rendre compte avec Rizoma, mais surtout la flottille qui part, le procès Eurolinks, la manifestation du 28 mars. Et rappelez une chose, le jumelage entre Marseille et Gaza devra être un impératif pour la nouvelle municipalité, mais nous ferons tout pour faire en sorte que les fascistes n'aient pas accès à Marseille. Nous restons antifascistes ici comme en Palestine et nous incitons la future équipe municipale, quelle qu'elle soit, à bien prendre conscience que nous ne lâcherons pas le jumelage avec la ville de Gaza. Et c'est justement parce qu'elle est détruite qu'elle a le plus possible besoin de solidarité. Voilà, il est l'heure de passer au générique. Merci beaucoup, Sidi, pour la technique.
Merci.
Et
merci.
À bientôt sur Radio Galère pour une heure en Palestine. Bintish Shalabi.